tout le monde il est beau, et le progrès nous sourit.
La thématique de cette nouvelle émission, intitulée « Du siècle des Lumières à celui de l'aveuglement », s'articule autour de la lecture presque intégrale d'un numéro de Manière de voir, revue bimestrielle publiée par Le Monde diplomatique. Ce numéro, intitulé « Le progrès en procès », propose une vision large de la notion de progrès, passant en revue divers aspects, positifs ou négatifs, de l'évolution humaine en termes de progrès. Cette émission, relativement longue, propose ainsi des lectures d'articles qui, s'enchaînant en diverses rubriques, offre des aspects critiques dont chaque article porte une réflexion spécifique. Cette thématique ne fait l'objet d'aucun commentaire de la rédaction et progresse ainsi au fil de la lecture du numéro.
À la suite de la lecture et en illustration de la période 1950-1960, vous entendrez de Pierre Boulez le rituel in memoriam Bruno Maderna.
Pas d'ouvriers sur la photo souvenir, par Christine Ross. À coups de graffiti et de barricades, des étudiants se révoltent poétiquement et font apparaître une contre-culture joyeusement libératrice. La version dominante de ce que fut mai 68 le rend ainsi ameublement inoffensif, car elle efface l'idée force qui, sur fond de grève générale, l'a animée. L'union de la contestation intellectuelle et de la lutte des travailleurs au fil d'une recherche commune de l'égalité. En mai 1968, une succession d'arrêts de travail à travers tout le pays a immédiatement suivi les violentes manifestations organisées par les étudiants au cours des premiers jours du mois. Pendant 5 à 6 semaines, la France s'est trouvée totalement paralysée. Parmi les insurrections qui se sont produites dans le monde au cours des années 1960, au Mexique, aux États-Unis, en Allemagne, au Japon ou ailleurs, la France et dans une moindre mesure l'Italie sont le seul pays à avoir connu une rencontre entre le refus intellectuel de l'idéologie dominante et la révolte des travailleurs. L'extension rapide de la grève générale sur un plan tant géographique que professionnel a dépassé tous les cadres d'analyse. En France, 3 fois plus de travailleurs se sont mis en grève que pendant le Front populaire en 1936, et c'est dans un laps de temps exceptionnellement court. Non contente d'affirmer haut et fort que certaines des idées et des pratiques les plus radicales de mai 68 ont été récupérées et recyclées au bénéfice du marché, l'histoire officielle affirme que la société capitaliste d'aujourd'hui, bien loin de symboliser le déraillement ou l'échec des aspirations du mouvement de mai, représente au contraire l'accomplissement de ses aspirations les plus profondes. En établissant une théologie du présent, elle gomme les souvenirs d'alternatives passées qui recherchaient ou imaginaient d'autres résultats que ceux qui se sont effectivement produits. Comment donc en sommes-nous arrivés à ce consensus autour du mai 68, qui n'est plus perçu comme en sympathique révolte des jeunes aux accents poétiques ou comme en mutation du style de vie? La réponse se trouve dans les formes narratives adoptée par l'histoire officielle qui, le plus souvent, enserre étroitement l'événement, le réduisant alors à la portion congrue. La première de ces stratégies, la réduction temporelle, interprète littéralement l'expression « mai 68 » comme « ce qui s'est produit pendant le mois de mai 1968 », abrégeant ainsi considérablement la chronologie des événements. Selon cette optique, mai 68 commence le 3 mai, lorsque les forces de l'ordre appelées à la Sorbonne procèdent aux premières arrestations d'étudiants, ce qui déclenche des violentes manifestations populaires dans les rues du quartier latin au cours des semaines suivantes. Il se termine le 30 mai, lorsque Charles de Gaulle, brandissant la menace d'une intervention armée, annonce qu'il ne démissionnera pas de la présidence et dissout l'Assemblée nationale.
Comment en sommes-nous arrivés à ce consensus autour de mai 68 qui n'est plus perçu que comme une sympathique révolte de jeunes ?
20 ans de radicalisme politique occulté. Mai 68 se limite donc au seul mois de mai, pas même à celui de juin, au cours duquel pourtant près de 9 millions de travailleurs, tout horizon géographique ou sociaux confondus, ont poursuivi leur grève. La plus grande grève générale de l'histoire de France se trouve ainsi reléguée à l'arrière-plan, tout comme la genèse de l'insurrection, dont on peut déjà trouver les ferments à la fin de la guerre d'Algérie, soit au début des années 1960. ni la violente répression d'État qui mit un terme aux événements de mai-juin, ni la violence gauchiste qui a perduré jusqu'au début des années 1970 ne sont évoqués. Ce ne sont pas moins des 15 à 20 ans de radicalisme politique qui sont ainsi occultés, dont les symptômes étaient déjà manifestes dans l'émergence progressive d'une option limitée mais significative à la guerre d'Algérie et dans l'adhésion de nombreux Français, dans la foulée de l'énorme secousse de révolution anticoloniale à une analyse tiers-mondiste de la politique globale. Il était également manifeste dans la récurrence des troubles vers un marxisme critique anti-stalinien exprimé dans les innombrables journaux qui ont fleuri entre les milieux des années 1950 et celui des années 1970. La conjoncture politique en France était en fait dominée par un marxisme très dynamique, que ce soit à l'intérieur du mouvement ouvrier, à l'université par le biais des idées de Louis Althusser, dans les petits groupes maoïstes, trotskistes ou anarchistes, ou encore dans la recherche en tant que cadre de pensée dominant en philosophie et en sciences humaines depuis la Seconde Guerre mondiale. Tout cela s'évanouit pourtant au profit d'un récit dans lequel mai 68 jaillit soudain de nulle part de manière tout à fait spontanée. Cet oubli est sans doute le prix à payer pour sauver le joli mois de mai au cours duquel est née la libre expression.
L'importance de la guerre du Vietnam a considérablement diminué au seul profit de la thématique de la révolution sexuelle.
Réduction narcissique au quartier latin. Cette restriction des événements en seul mois de mai a des répercussions importantes. Le raccourci temporel non seulement fonde, mais renforce la réduction géographique du théâtre d'activité à la seule ville de Paris et plus spécifiquement encore au quartier latin. Une fois de plus, le rideau tombe sur les travailleurs en grève dans le faubourg de la capitale et dans tout le pays. Les expériences réussies de solidarité entre ouvriers, étudiants, agriculteurs en province comme ailleurs restent dans l'ombre. Selon certaines sources, la province a connu, pendant les mois de mai et juin, des manifestations plus soutenues et plus violentes que Paris. Mais l'histoire officielle reste muette sur le sujet. Pas un mot sur ce qui a été vécu dans les usines à Nantes, à Caen et loin de Paris, ni sur la constellation des pratiques et d'idées sur l'égalité qui ne peuvent s'intégrer après coup dans le paradigme libéral-libertaire actuel adopté par nombre d'anciens protagonistes de mai 68. L'histoire officielle, pour dissimuler sa réduction narcissique de mai 68 aux seules limites du quartier latin, tente de lui donner une certaine dimension internationale. Ce faisant, elle occulte l'unique facteur international dont on puisse affirmer avec certitude le rôle majeur dans les événements français, comme du reste, dans les insurrections survenues en Allemagne, au Japon, aux États-Unis, en Italie et ailleurs, à savoir la critique de l'impérialisme américain et de la guerre du Vietnam. L'importance du Vietnam a considérablement diminué dans les représentations françaises de mai 68, au point, par exemple, de disparaître totalement des commémorations télévisées des années 1980 au seul profit de la thématique de la révolution sexuelle. Cette occultation a été commencée par la création d'une autre dimension internationale. À travers toute une série de révoltes, souvent en forme et mal définies des jeunes aux quatre coins du monde, au nom ou en quête de liberté et d'autonomie personnelle, ce que Serge Julie a jadis appelé la grande révolution culturelle libérale libertaire. Après avoir réduit mai 68 à une quête anti-idéaliste et spirituelle, les ex-leaders étudiants et autres porte-parole autorisés ont, au moment de son 20e anniversaire, élargit cette quête à une génération entière, à toute une classe d'âge à travers le monde, pour que le mot d'ordre des années 1980, liberté, a définitivement et de façon anachronique remplacé ce qui me paraît l'aspiration profonde des années 1960, à savoir l'égalité. Ces réductions opérées par l'histoire officielle ont permis aux étudiants et au monde universitaire d'obtenir l'exclusivité du rôle de représentant des événements de mai 68. Cela ne saurait nous surprendre. Les barricades, l'occupation de la Sorbonne et du théâtre de l'Odéon, les graffitis poétiques surtout, sont devenus aussi incontournables que les visages des mêmes trois ou quatre anciens leaders étudiants que l'on voit vieillir au fil des commémorations diffusées tous les 10 ans à la télévision française.
Le mot d'ordre des années 1980, liberté, a définitivement remplacé ce qui était l'aspiration profonde des années 1960, à savoir l'égalité.
Union des intellectuels et des travailleurs. Pourtant, dans les années 1960, la politisation massive de la jeunesse des classes moyennes françaises s'est développée sur fond de relations polémiques et d'identification impossibles avec deux figures totalement absentes de ce tableau, l'ouvrier et le militant anticolonialiste. L'idée force de mai 68 résidait dans l'union de la contestation intellectuelle et de la lutte des travailleurs. En d'autres termes, la subjectivité politique qui émergea en mai était de type relationnel, construite autour d'un débat sur l'égalité. Une expérience quotidienne d'identification, d'aspiration commune, de rencontres plus ou moins réussies, de réunions, de déceptions et de désillusions. L'égalité, telle qu'elle fut massivement expérimentée à ces moments-là, c'est-à-dire comme une pratique inscrite dans le présent et prouvée comme telle et non pas comme un objectif à atteindre, constitue un énorme défi pour toute représentation future. Qu'il s'agisse de la création de formes d'activités qui mirent fin à la tradition de représentation et de délégation politique en minant les divisions entre leaders et militants de base, ou de la mise en place de pratiques symptomatiques de l'engagement de masse dans une politique non plus réservée aux seuls spécialistes, mais sujet de préoccupation de tout un chacun. Une telle expérience ne peut que menacer les méthodes, déjà peu nombreuses, dont nous disposons pour décrire la vie quotidienne et ses représentations sociales. Le problème devient plus épineux encore 20 ans plus tard, au cours des années 1980, dans un climat idéologique marqué par une offensive générale contre l'égalité menée sous le couvert d'une critique de l'égalitarisme. L'attaque a pour ambition de faire de l'égalité un synonyme d'uniformité, de contrainte ou d'aliénation, ou encore d'adversaire farouche de la libre concurrence. Lorsque l'idée même d'union entre contestation intellectuelle et lutte ouvrière en vient à s'estomper ou à tomber dans l'oubli, il ne subsiste plus guère de mai 68 que la préfiguration d'une contre-culture émancipatrice, une métaphysique du désir et de la libération, la répétition générale d'un monde constitué de machines désirantes et d'individus autonomes irrémédiablement enracinés dans leur expérience subjective. De la sphère politique à la sphère éthique. À partir du milieu des années 1970, des nouvelles figures prennent le relais de l'ouvrier et du militant anticolonialiste et mobilisent l'attention des médias. L'image abstraite d'une plèbe incarnant détresse et impuissance a servi de modèle pour élaborer la figure emblématique de la souffrance, aujourd'hui au cœur du discours sur les droits de l'homme. Et la figure du dissident va focaliser à nouveau l'attention des Français sur la guerre froide, plutôt que sur la problématique Nord-Sud qui avait dominé les années 1960. La victime humanitaire étant désormais au centre des représentations, les damnés de la terre deviennent tout simplement des damnés, privés de toute subjectivité politique, incapables d'universaliser le tort qui leur a été fait, réduits en figure de pure altérité, victime ou barbare. En France, tout au moins, le nouveau discours éthique autour des droits de l'homme, qui se trouve surtout formulé par des ex-gauchistes désireux de prendre leur distance avec leur passé militant et d'échapper aux désillusions de mai 68, a joué un rôle majeur dans l'oubli de 1968. En d'autres termes, on peut dire que le besoin de régner mai 68, qui commence à se manifester vers 1976, entraîne un retrait de la sphère politique vers la sphère éthique, ce qui déforme non seulement l'idéologie de mai, mais aussi l'essentiel de son héritage. Les ex-gauchistes qui en avaient revendiqué la garde étaient alors particulièrement bien placés pour réviser la signification des événements à la lumière de leur transformation spirituelle. Alors que la culture de 68 s'était radicalement opposée, parfois même avec violence, au type même de discours moralisant qui devait prévaloir à partir de la fin des années 1970, voilà qu'elle se trouve redéfinie, non par la politique, mais par la morale personnelle.
Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you.